Daniel Georget, bonjour.
Bonjour.
Voilà, je suis ravi de vous retrouver dans le studio de Neptune pour parler de votre livre « Carmen des grands boulevards ». Mais avant de parler du livre, en fait, j'aimerais savoir, et puis je pense que c'est pareil pour les auditeurs, qui est Daniel Georget ? Je sais sur votre biographie que vous avez été pendant longtemps journaliste à Paris Match et puis rédactrice en chef. Donc, votre passion, c'est le journalisme ?
Ma passion, ça a toujours été l'écriture. Donc, à Match, on avait la chance de faire encore un journalisme très écrit, avec des grands papiers, où il était important un peu, pas de les romancer, parce que les faits devaient être toujours vrais, mais enfin, de les construire un peu de façon dramatique, dans le sens de drame. C'est une écriture un peu particulière qui n'est pas l'écriture des quotidiens, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la presse le news magazine. Et donc c'est une écriture qui amène assez naturellement beaucoup de journalistes à finir par avoir envie d'écrire pendant plus longtemps. C'est pour ça que vous avez tant de journalistes qui publient des livres, parce qu'ils sont toujours un peu frustrés par la longueur imposée de cet exercice de style.
Donc on peut dire que c'est un journalisme un peu romanesque qui amène naturellement à l'écriture de romans.
C'est ce que je pense, oui, c'est ce que je pense. Et peut-être aussi que beaucoup de gens ne se sentent pas la légitimité pour se lancer directement dans une carrière d'écrivain, et que beaucoup sont passés par le journalisme avant pour écrire, et que quand ils en ont la possibilité, ils font ce qu'ils avaient envie de faire, c'est-à-dire raconter des histoires, puisque finalement, pendant un moment, Match avait voulu changer de slogan, et alors que tout le monde connaissait le poids des mots, le choc des photos, on avait payé une agence très chère pour inventer un nouveau slogan que personne n'a retenu. C'est « La vie est une histoire vraie ». Voilà. Donc, il y avait le mot « histoire » dedans, qui parle justement de cette volonté d'aller un peu aux sources du romanesque.
Vous avez publié plusieurs romans. Et ce qui est très amusant, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, à travers vos publications, c'est toute la saga de la famille Kennedy que vous avez parcouru, puisque vous avez écrit un livre sur John l'héritier, la famille. Après, donc, vous avez écrit un livre sur Goodbye Mr. President, qui raconte en fait un peu les dernières heures effectivement du président avec Jackie. Et puis après, encore l'histoire du papa. Joe, effectivement, donc ce fameux Joe qui n'était pas un enfant de cœur. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur les Kennedy comme...
Eh bien, justement, parce que celui qu'on appelait en France, qu'on a appelé jusqu'à sa mort pratiquement John, était en fait très proche de Match, parce que Daniel Filipacchi avait monté son journal, le journal que John voulait faire. Il voulait traiter de la politique de façon différente. À New York, c'était dans les années 80. Et donc, d'abord, John, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il était particulièrement beau. Et comme son père avait été un des hommes les plus connus du XXe siècle, lui, il était un peu le petit prince, quoi. En plus, il était toujours fiancé avec des actrices magnifiques. Donc, c'était pour la presse magazine, c'était...
Un bon client.
Oui, un bon client, un personnage récurrent, etc. Et moi, quand je suis arrivée au journal... évidemment, j'étais jeune. Et donc, on m'a demandé d'écrire sur lui. Et petit à petit, ça s'est enchaîné comme ça. Donc, on a commencé. Un jour, un éditeur m'a demandé de raconter Kennedy à travers ses enfants. Donc, les romans sur les enfants, c'est toujours un peu compliqué. Donc, vous l'alimentez quand même en racontant surtout le père, comme il était vu par ses enfants. Et puis, j'ai fait donc le fils. Après, un éditeur m'a dit, puisque vous les sentez tellement bien, ces Kennedy, vous pourriez pas faire un roman sur Jackie, etc. Et on a pensé aux 24 dernières heures de Jackie et du président à Dallas. Et puis après, alors un autre éditeur m'a demandé autre chose. Enfin bref, on a toujours, c'est un peu comme l'œuf et la poule, quoi, avec les Kennedy. On a toujours envie de savoir, mais comment est-ce qu'on peut créer une dynastie au XXe siècle, quoi. Donc, le créateur de la dynastie, c'était le vieux Joe, quoi. Donc, je suis remontée aux sources. Donc, j'espère que... Je ne pense pas écrire un jour l'histoire du père de Joe Kennedy, qui est le fondateur de la dynastie, qui lui était irlandais.
De même, ce n'est pas vous qui écrirez sur la cuisinière des Kennedy, parce que
non, ça c'est déjà fait, oui, c'est fait.
Une autre, en fait, auteur, en fait, l'a fait. Mais donc, vous êtes devenue un peu la biographe romancée, en tout cas, effectivement, donc de la famille Kennedy. Bon, dans un tout autre genre, en fait, vous avez publié... un livre qui est un dictionnaire amoureux de l'Ukraine, en fait, que vous avez co-rédigé, juste d'ailleurs au moment en fait, où la guerre d'Ukraine en fait, s'est déclarée. Et puis, alors, votre dernière publication, c'est Carmen des Grands Boulevards. Je vous propose qu'on écoute peut-être ce chant célèbre qui est...
La Habanera,
oui.
Voilà, les remparts de Séville, puisque en plus nous sommes dans les bureaux de la radio Neptune, dans un fort, et ça pourrait tout à fait être sur ce fort, sur les hauteurs de ce fort que se promène Carmen.
Comment est-ce qu'on passe effectivement de Kennedy à Carmen ? Quelque part, effectivement, c'est une famille star, en fait, et là maintenant, donc, un personnage star.
Eh bien, alors là, c'est tout à fait différent comme cheminement. Là, il faut que je vous parle du 9e arrondissement, qui est mon quartier. Donc, à Paris, j'habite près de la rue des Martyrs, dans le quartier qui, au 19e siècle, était le quartier des prostituées, des cocottes et des musiciens et aussi des actrices de théâtre. Donc c'était le quartier, c'est le quartier de l'opéra comique. L'opéra à l'époque était rue Lepelletier avant d'être l'opéra Garnier de la place de l'opéra. C'est le quartier des théâtres. Et donc, tout près de chez moi, il y a une plaque sur laquelle est inscrit que Georges Bizet a écrit Carmen à peu près dans cet immeuble et qu'il est mort pas très loin, enfin pas très longtemps après. Voilà. Donc en fait, Carmen n'a aucune attache avec Paris Match, mais beaucoup d'attache avec mon quartier.
Avec votre quartier et avec votre goût de la musique et de l'opéra ?
Oui, bien sûr, parce que j'ai une fille qui est musicienne et donc par elle, qui est violoniste, j'ai découvert un milieu, un univers qui n'était pas le mien et que je trouve absolument fascinant parce que ce sont des gens passionnés. Voilà, donc c'est merveilleux. Puis c'est très... L'enseignement de la musique classique... est resté très traditionnel et quand vous avez un enfant qui fait de la musique, sa relation avec son professeur, les auditions, tout ça, je pense que c'est pas très différent de ce que c'était au 19e siècle. Donc c'est une ambiance que je connais bien maintenant.
D'accord, donc ça c'est en fait la proximité et puis on tire le fil. Donc en fait, et derrière Carmen, en fait, il y a l'auteur. Donc, et avant peut-être effectivement de parler de Carmen et Carmen des Grands Boulevards, donc vous avez tout de suite planté le décor du 9e arrondissement, à la fois du théâtre en fait, et puis d'un certain nombre de filles qui peut-être ressemblent à Carmen, on y reviendra. Mais il faudrait qu'en fait vous puissiez nous brosser le portrait de son auteur. Son auteur qui est finalement en fait aujourd'hui beaucoup moins connu que son œuvre. Il a été un peu écrasé par son œuvre, c'est ce qu'on dit. Donc, Georges Bizet. Alors, qui est Georges Bizet, ce surdoué de la musique, en fait, et d'où vient-il ?
Ben, Georges Bizet, ça commence par être un enfant virtuose. Et comme beaucoup d'enfants virtuoses, il a beaucoup de mal à concrétiser les promesses. C'est-à-dire qu'il a eu une enfance et une adolescence merveilleuses, prix de Rome à 16 ou 17 ans, tout de suite surdoué, tout de suite exhibé, etc. Et puis après, il avait une ambition artistique qui fait qu'il n'a pas voulu se contenter de faire ce qu'on lui demandait et ce qui aurait eu du succès tout de suite, c'est-à-dire prendre la suite d'Offenbach, qu'il aurait fait très facilement parce que il a commencé à donner ses premières compositions en gagnant un concours qu'avait organisé Offenbach. Et quand il a gagné ce concours, avec pour vous situer un peu le style de musique, l'air le plus célèbre de petit opéra qu'il avait composé s'appelle L'air de l'omelette. Donc c'était quelque chose d'amusant et charmant comme faisait Offenbach. Mais lui, ça l'amusait pas de faire de la musique légère. Et donc, il avait une ambition d'écrire la musique de son siècle. Et là, ça a été le début des désillusions parce que il a fait plusieurs opéras qui n'ont pas marché, qui ont été joués entre 6 et 10 fois, ce qui est absolument rien.
C'était ses premiers opéras comme Le Pêcheur de Perles,
oui,
L'Arlésienne.
Oui, c'est ça. L'Arlésienne a eu un petit succès, alors que la pièce de Daudet a été une catastrophe aussi. Et donc, Daudet, qui était un grand amateur de musique et un grand amateur de la musique de Bizet, Daudet avait une femme qui était pianiste. Et donc adorait la musique qu'avait composé Georges Bizet pour l'Arlésienne. Et à la suite de l'échec de la pièce, Bizet a fait une adaptation pour orchestre qui, elle, a eu beaucoup de succès, qui est peut-être un des premiers succès de Georges Bizet. Et voilà, donc il a toujours été le musicien qui était reconnu par ses pairs, mais dont les résultats étaient décevants, parce qu'on lui reprochait, c'est le reproche qu'on fait à tous les jeunes musiciens de l'époque, de faire du sous-Wagner, c'est-à-dire c'est très spécieux hein, comme accusation, parce qu'il donne beaucoup d'importance au chœur et il traite les voix un peu à égalité de l'orchestre. Enfin, c'est une musique particulière, mais enfin, d'ailleurs, il y aura un grand philosophe, Nietzsche, qui s'était quand même fâché avec Wagner, donc ça a simplifié les choses, mais qui, entre Wagner et Bizet, choisit ostensiblement Bizet, était un grand passionné de Carmen. Nietzsche a écrit des très belles pages sur la Carmen de Bizet. Donc, il a eu beaucoup d'échecs, et le dernier échec, eh bien, c'est Carmen, et il est mort 3 mois après la création.
On en viendra effectivement plus tard, un peu justement en fait à la genèse de Carmen, mais c'est pas mal aussi de planter un peu le décor familial, parce que comme vous dites, c'est un surdoué de musique. En fait, ses deux parents en fait étaient musiciens aussi, professeurs de chant, et très vite, en fait, il va aussi devenir en fait l'élève d'un grand compositeur d'opéra qui est Fromental à Lévy. Donc, il a produit notamment composé La Juive, en fait, donc opéra, en fait, un grand succès du Second Empire. Hein. Et il va épouser effectivement sa fille.
Oui.
Bon, donc il va épouser sa fille et il va vouloir finalement lui-même avoir le même succès, la même réputation que son beau-père, mais ça sera effectivement beaucoup plus compliqué. Et alors, ce qui est aussi effectivement amusant, c'est que dans cette famille, donc, le cousin, effectivement, donc, de sa fille, qui s'appelle, de la fille
Ludovic,
de Fromental,
hein.
Voilà, donc, sa femme s'appelle Geneviève, le cousin Ludovic est lui-même, donc, en fait, un auteur de talent, c'est un librettiste, mais qui lui fait de la musique très très légère et des opérettes.
Oui, ouais. Il a écrit les plus grands succès d'Offenbach, notamment « Je suis l'époux de la reine, poux de la reine, poux de la reine ». Ça, c'est du Ludovic Halévy. Vous voyez, c'est un peu comme l'air de l'omelette. C'est dans cette tradition d'opéra bouffe, de choses légères et très gaies.
Mais alors, ce pauvre Georges Bizet va être un peu coincé, en fait, entre d'un côté le cousin, d'ailleurs, qui l'héberge, dans le même immeuble, et qui, lui, effectivement, donc, en fait, aime le succès facile, hein, donc, il n'a pas d'ambition artistique, et Georges, qui, lui, veut être l'égal des plus grands, et notamment de son beau-père. Et donc, alors, Georges Bizet, donc, il crée ses opéras, qui n'ont pas beaucoup de succès, il a, je crois, en fait, aussi... une symphonie, en fait, donc il y a eu en fait un bon accueil, mais c'est pas ça qui le fait vivre. Et que, de quoi il vit, en fait?
Il donne quelques leçons, il donne des leçons de piano. À l'époque, surtout, Georges Bizet lui-même est un pianiste virtuose, mais il déteste, il pourrait jouer dans les grands salons et être payé royalement par nombre de grandes fortunes aristocrates qui à l'époque font beaucoup de soirées chez elles, mais il déteste ça parce qu'il trouve qu'on traite les musiciens comme des domestiques, et donc il supporte pas ça. Mais en revanche, ce qui le fait vivre principalement, c'est qu'il fait des transcriptions. C'est-à-dire qu'à l'époque, bon, je rappelle qu'il n'y a pas évidemment ni télévision ni disque, et dans les milieux un peu bourgeois, il est tradition qu'on ait un piano chez soi et que les dames un peu illuminent la soirée en jouant les airs à la mode, qui sont des airs d'opéra, mais donc qui doivent être transcrits. Et Bizet fait ça à la chaîne, c'est-à-dire qu'il transcrit pour les éditeurs de musique de la rue de Rome, c'est-à-dire tous ces éditeurs qui aujourd'hui pratiquement ont tous fait faillite. Hein. Il n'y a plus d'éditeurs de musique français, il n'y a plus que des éditeurs de musique allemand ou américain. Mais lui vit en faisant ça, en transcrivant des opéras pour le piano.
Il est lui-même, en fait, assez tourmenté, et donc dans un milieu donc où il a une femme qui, elle, est plutôt effectivement coquette, mondaine, qui sera, je crois, l'inspiratrice effectivement de Proust, en fait, donc pour certains personnages, effectivement, dans la recherche du temps perdu.
30 ans plus tard, ou 40 ans plus tard.
Ou 40 ans plus tard, il n'est pas forcément très, très heureux en ménage, mais lui-même, comme vous dites, il s'escrime effectivement à essayer de gagner sa vie, et en même temps... Donc, il va un jour être appelé pour pouvoir effectivement participer et coécrire en fait un projet. Donc, alors, est-ce que ce sera Carmen, ce projet? Parce qu'à la demande des directeurs de l'Opéra Comique, racontez-nous comment ça s'est passé, la jeunesse.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc, comme je vous le disais, Bizet avait connu plusieurs échecs à l'Opéra. Mais... À l'Opéra Comique, qui était un théâtre à l'époque déjà subventionné, l'Opéra Comique devait respecter quelques règles, c'est-à-dire donner des créations, être obligé, alors qu'on sait bien à l'Opéra Comique aujourd'hui comme hier, que ce qui attire le plus les spectateurs, c'est les choses qu'on connaît par cœur. Enfin, il y a nombre d'opéras comme, j'ai pas en tête, mais par exemple Mignon, c'est des opéras mais qui ont été joués 300 fois, 400 fois, etc. Et à chaque fois qu'on le met à l'affiche, la salle est comble. Mais par ses statuts, l'Opéra Comique était obligé de créer des œuvres, et notamment des œuvres de prix de Rome. C'est-à-dire que Bizet, du coup, s'inscrit complètement dans les compositeurs que l'Opéra Comique doit représenter. Il est jeune, il est français, ce qui est très important, parce qu'à l'époque, tous les musiciens sont révoltés par le fait que, entre parenthèses, on ne joue que les Allemands. Je rappelle que la France vient de subir une lourde défaite devant la Prusse. Donc, les Allemands, et je rappelle aussi qu'Offenbach, qui a encore beaucoup de succès, mais qui est beaucoup plus âgé, on s'aperçoit à ce moment-là qu'il a un furieux accent allemand, et ça va provoqué la chute d'Offenbach, hein, qui n'aura plus de succès à partir de la guerre de 70. Donc, il faut absolument que la scène française se renouvelle. Donc, trouve des jeunes compositeurs, prix de Rome, qui vont pouvoir créer des œuvres à succès. Et alors, qu'est-ce que vont se dire les patrons de l'opéra comique? Ils ne vont pas faire appel à Georges Bizet, le compositeur qui n'a jamais eu tellement de chance. Ils vont faire appel à son cousin, Ludovic Halévy, qui connaît toutes les ficelles d'Offenbach, puisqu'il a composé, je ne sais pas, il a écrit peut-être une vingtaine d'opéras, d'opérettes d'Offenbach. Et donc, ils vont dire à Ludovic Halévy, écoutez, travaillez avec votre cousin, là, ce Bizet, bon, qui a beaucoup de talent, mais qui est quand même un peu casse-pied avec son ambition, ses trucs, mais surveillez-le, faites-lui faire un truc drôle, enfin, un truc qui a du succès, un truc pour l'hiver, quoi, vous comprenez, vous savez bien ce dont on a besoin. Et donc, Ludovic, qui veut rendre service à son cousin, parce qu'il sait très bien que son cousin en meurt de désespoir de pas être présenté. Enfin, quand on est compositeur, faut être joué, quoi. C'est pas le tout de coucher des notes sur le papier. Faut les entendre, faut voir son opéra représenté, etc. Et donc, convainc Georges Bizet de travailler à cet opéra pour l'opéra comique. Et au départ, Bizet suit l'air du temps. Je vous rappelle que ça se passe après la guerre de 70, à une époque où on a besoin de faire des opéras patriotiques, où on montre la France glorieuse, etc. Et donc, il pense d'abord à faire un opéra qui serait tiré de l'histoire de Sainte-Geneviève. Parce que Sainte-Geneviève, c'est formidable, c'est l'histoire d'un siège. Donc, c'est les Normands, mais enfin, tous les Parisiens se souviennent du siège qu'ils ont vécu quelques années plus tôt et qui a été terrible, et qui est le prélude à la Commune, quoi. Donc, il tient une histoire, on se dit, bon, c'est pas très gai, c'est sûr que c'est pas très gai, mais on va rajouter une histoire d'amour entre Geneviève et un roi barbare. En plus,
Geneviève est le nom de sa femme, quand même.
En plus, donc, c'était très bien, voilà. Et puis, là-dessus, bon, d'abord, ça commence sous Adolphe Thiers. Après, Adolphe Thiers est renversé. Il est remplacé par le duc de MacMahon. Et le duc de MacMahon, il a un mot d'ordre. C'est l'ordre moral, le retour de l'ordre moral. Et donc, c'est formidable. Geneviève de Paris, on ne veut pas dire Sainte-Geneviève, hein, parce que Georges Bizet est républicain, donc sainte, voilà. Donc on évacue sainte, ça serait devenu Geneviève de Paris. C'est tout à fait dans l'air du temps. C'est... Il y a une héroïne, des envahisseurs, le sacrifice de l'héroïne, à la fin, la France qui gagne, etc. C'est parfait. Eh bien non, Bizet, c'est un esprit à contradiction. Et ça l'énerve de faire un truc qui est tellement dans l'air du temps. Et c'est à ce moment-là qu'il va imposer cette idée de fou de mettre en musique un roman qui avait eu du succès 20 ans plus tôt, qui est la Carmen de Prosper Mérimée. Et là, pour les directeurs de l'opéra comique, ça commence tout de suite, où ils se disent tout de suite, c'est la catastrophe. Parce que comment se termine la Carmen de Mérimée? Ça se termine par l'assassinat de Carmen. Un assassinat à l'opéra comique, c'est vraiment pas ce dont on a besoin. Et donc, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, déjà pour le faire changer d'idée, mais aussi pour le faire changer de fin. Et là, c'est-à-dire, il aurait fallu que Carmen ne se termine pas par la mort de Carmen. Et là, Bizet va être absolument obtus. Il va refuser, ça va être le combat de sa vie, il va refuser que Carmen ne meure pas à la fin, parce que pour lui, c'est fondamental.
Vous dites qu'il a été chercher, effectivement, cette histoire, donc, en fait, sur ce roman, ou cette nouvelle, effectivement, de Mérimée, dans un environnement, en fait, l'Andalousie, qu'il ne connaît pas du tout.
Absolument.
Il n'a jamais mis les pieds, en fait, à Séville.
Jamais, jamais. Mais il y a quelque chose qu'il connaît bien. En revanche, c'est la musique espagnole, qui est très à la mode à l'époque. Elle est à la mode depuis Napoléon III. Parce que Napoléon III a épousé une Espagnole qui a notamment fait venir son professeur de musique, lequel s'appelle Irradier, lequel avait publié un recueil d'airs populaires espagnols. Et donc Bizet pensait que tous ces airs étaient des airs populaires, comme nous, nous avons, je ne sais pas, à vous dirais-je, maman, ou personne ne peut vous dire d'où vient, qui a composé le premier à vous dirais-je maman. Donc il s'est servi un peu dans ce recueil d'airs, notamment pour la Habanera, qui est tellement, tellement célèbre. Et alors après...
Mais on ne l'a pas un peu accusé de plagiat, justement ?
Absolument, on l'a accusé de plagiat. Et ça, c'est vraiment les méchancetés qui ont été de tout âge. Parce que, en fait, dès que Bizet a su que le compositeur d'une musique qui est extrêmement proche, hein, mais qui est quand même un peu différente, d'une musique qui était extrêmement proche, était cet Irradier, il a tout de suite fait rajouter sur sa partition. C'est d'après la musique d'Irradier, publiée dans, je ne sais plus comment s'appelait ce recueil. Alors régulièrement, il y a des auteurs qui vont ressortir ce truc en vous donnant le sentiment qu'ils ont découvert l'escroquerie du siècle. Mais ce n'est pas du tout l'escroquerie du siècle. Bizet a cru que c'était un air populaire qui n'avait pas d'auteur. Et dès qu'on lui a dit, bah là tu exagères, c'était quand même Irradier qui a composé ça, bah, il a écrit Irradier sur sa partition.
Alors venons-en maintenant donc au jour de la première. Le jour de la première, c'est... Nous sommes en 1875.
Oui, en mars.
En mars 1875. C'est pour ça d'ailleurs que votre livre, il est sorti 250 ans en fait. Donc.
Non, 150.
150 ans, oui. Excusez-moi. C'est déjà pas mal. Anniversaire de 150 ans. Voilà, et donc alors, comment le public, en fait, qui va se presser nombreux donc à l'Opéra Comique, va-t-il accueillir cette première représentation ?
Ben, tout commence très bien. Le premier acte, les gens adorent parce que ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont les enfants qui défilent. Ils ont les soldats qui courtisent une jeune fille absolument parfaite, qui fait très attention, qui est pleine de bons sentiments, qui apporte une lettre de sa maman, une lettre pour un jeune sous-officier qui a été écrite par sa maman. Enfin, tout ça commence très, très bien. Donc, il y a aussi des cigarières, il y a tout ce qu'il faut, le décor est charmant. Il y a cette Carmen, bon, qui est une bohémienne. Elle fait ce que font toutes les bohémiennes, c'est-à-dire qu'elle est un peu violente, un peu menteuse, un peu aguicheuse, mais enfin, ça ne surprend personne. Donc, tout le monde est très content. En fait, le problème, ça va être à partir du moment où Carmen va s'adresser à ce jeune sous-officier qui est fait pour se fiancer avec la jeune fille qu'on voit débarquer là, près de la citadelle. Et là, à ce moment-là, Carmen commence par envoûter le jeune sous-officier qui, plutôt qu'être héroïque et résister à cette belle bohémienne, eh bien, se laisse complètement écraser par la bohémienne au point qu'il va déserter pour elle. Et là, ça n'amuse plus personne parce qu'on est dans une France à fleur de peau qui prépare déjà la revanche et pour qui l'armée est quelque chose de sacré. Je vous rappelle que quelques 20 ans plus tard va éclater la grande affaire de Dreyfus où, pour sauver l'honneur de l'armée, on va accuser un pauvre officier qui n'était pas pour grand-chose à cette trahison, mais parce que sauver l'honneur de l'armée, c'est essentiel. Et qu'est-ce que fait Carmen ? Eh bien, l'honneur de l'armée, elle le foule aux pieds. Et son soldat, autour duquel elle s'enroule comme une prostituée du carrefour, elle va le faire déserter. Et ça, eh bien, avec ça, on rigole pas du tout. Et donc, c'est ce qui va provoquer une avalanche de critiques, d'une méchanceté et d'une férocité. La presse va piétiner Carmen.
Mais alors, la presse va piétiner Carmen, mais même je crois que le premier soir de la représentation, il y a évidemment le tout Paris s'y est pressé, mais il y a beaucoup de gens qui vont quitter la représentation sans même attendre la fin, non ?
Oui, oui, absolument. Ouais. Bah, Carmen va être sifflée. Hein. Ouais. Je pense qu'en fait, il y a une cabale. Parce que, comme je vous le disais, le directeur de l'Opéra Comique était furieux que Bizet ne respecte absolument aucune de ses recommandations. Et donc, il n'a pas voulu faire ce qu'on faisait quand même énormément à l'époque, même, je pense, systématiquement, c'est-à-dire payer une claque. Donc, les ennemis de Bizet vont envoyer, eux, les gens siffler. Mais c'est pas totalement anormal qu'on siffle une première à l'époque. C'est quand même des réactions. C'est presque un peu les réactions des réseaux sociaux aujourd'hui où on vous injurie extrêmement facilement. Je veux dire, c'est presque normal, mais c'est contrebalancé par la claque. Il y a une espèce de bataille, et au contraire, ça fait le succès des œuvres. Si vous avez une bataille entre la claque et ceux qui sifflent, mais là, il n'y aura personne pour répondre à ceux qui sifflent. Et donc, la soirée va terriblement mal se passer. Et pour Bizet, c'est une catastrophe. Bizet est désespéré, il ne sait plus où se mettre, quoi. Je veux dire, pour lui, c'est l'effondrement, parce qu'il pense qu'avec Carmen, il tient enfin le grand succès. Il mise beaucoup sur Carmen. Il est sûr que cette musique est formidable, qu'elle va donner envie de chanter, envie de danser. Et c'est vrai, c'est ce que va faire Carmen.
Mais c'est ce que va faire Carmen. Et on parlera effectivement de la postérité posthume, effectivement, de Carmen après. Mais est-ce que Bizet n'a pas voulu concilier à la fois effectivement le plaisir et le talent de créer de la grande musique et en même temps d'affirmer lui-même ses valeurs progressiste, républicaine, mais finalement en faisant de Carmen un peu le porte-parole de la liberté. Carmen, c'est un peu donc la liberté guidant le peuple de la Croix, et c'est ça qui a finalement, donc c'est une femme affranchie, c'est une femme libre, c'est une femme qui bafoue les conventions. C'est pas exactement comme vous dites l'ordre moral effectivement de Mac Mahon, mais est-ce que l'échec effectivement sera en fait à la fois un échec politique et aussi effectivement musical, ou ça sera comment vous voyez ça?
Moi je pense que l'échec il est surtout politique, parce que la musique était trop séduisante, mais ça n'avait plus d'importance, parce que les gens de l'époque ont très bien reconnu qui était Carmen. Aujourd'hui, on croit que Carmen est une Espagnole, mais c'est pas Carmen n'est pas une Espagnole. Carmen est une au mieux est une bohémienne. Et qu'est-ce qu'on appelle la bohème à l'époque? Les gens le savent. La bohème, ce sont les artistes et les étudiants qui vivent librement, qui ne respectent aucune convention sociale et qui en sont très fiers, qui ne se cachent pas de ça. Et Carmen revendique sa liberté. Et plutôt que de se cacher de son amant jaloux, elle le provoque presque, parce qu'elle refuse de faire la moindre concession. Et quand son amant va l'assassiner, elle est à quelques mètres seulement de son nouvel amant. Enfin, elle pourrait se cacher, elle pourrait différer, elle pourrait tout ça. Mais non, elle arrive comme au combat. Mais simplement, elle n'a pas les armes. Voilà, mais pour moi, Carmen n'est pas du tout une victime. Carmen, c'est une guerrière, et elle me fait un peu penser d'ailleurs aux femmes qui étaient sur les barricades des communes et qui sont un peu les sœurs de Gavroche, ouais, quand même. Ouais. Et donc c'est ça Carmen, c'est ça la beauté de Carmen. Et je pense que le public bourgeois qui était là, je vous rappelle que dans ce public bourgeois, on vient toujours à l'Opéra Comique en famille, avec sa femme, avec sa fille. On dit, ça c'est ce que les directeurs de l'Opéra ont dit à Bizet, que l'Opéra Comique, c'était la scène des entrevues de mariage, quand on présentait les jeunes gens les uns aux autres pour arranger un mariage entre jeunes gens de même milieu. Mais tous ces messieurs qui sont là ont souvent des vies en dehors. Et ces cocottes dont je parlais, elles habitent le quartier.
Ben, ce sont les fameuses lorettes, non ?
Oui, il y a les lorettes. Les lorettes, c'est celles pour les compagnes des étudiants, souvent. Hein, ouais. C'est des ouvrières. Un peu comme Carmen, qui est une ouvrière d'usine de tabac. Voilà, les lorettes, elles travaillent plutôt dans les ateliers de confection de la rue Saint-Lazare. Mais il y a les grandes cocottes qui ont les plus beaux hôtels particuliers du 9e arrondissement et qui reçoivent chez elles, qui ont reçu chez elles jusqu'à Napoléon III, quoi. Je veux dire, les grandes fortunes immobilières, les grandes fortunes aristocrates, tous ces messieurs. Et donc, cette Carmen, je pense qu'elle leur a tous à rappeler quelqu'un ou quelqu'une, plus exactement. Et c'est pas l'endroit, alors qu'ils sont avec leur femme, où ils ont envie de voir une fille dans ce genre sur scène. Et donc tout ça, c'est très hypocrite, quoi. C'est une société qui était très libre, mais qui est très hypocrite. Et donc Bizet était victime de ça.
Et alors ce pauvre Bizet, il va en mourir très vite, alors ?
Enfin, il était à l'époque, Bizet toute sa vie a eu des angines. Alors maintenant, on trouve ça complètement ridicule. On ne meurt pas d'angines. Mais enfin, c'est une époque où il n'y a pas d'antibiotiques. Donc, il avait jusqu'à 10 angines par hiver qui se terminaient par des abcès à la gorge, etc. Alors, on ne sait pas trop s'il est mort. Ce qu'on sait très bien, il est mort précisément trois mois après. Il retravaillait sur son histoire de Geneviève de Paris en se disant bon, bah, qu'il va peut-être falloir un peu se plier au goût du temps, quoi, pour avoir enfin ce succès qu'il méritait. Il était parti dans une maison qu'il avait louée à Bougival et il a voulu se baigner dans la Seine parce que Bizet adorait nager. Et nager particulièrement dans l'eau froide.
Plus froide qu'à l'Île-Dieu ?
Certainement beaucoup plus froide qu'à l'Île-Dieu, parce qu'à l'Île-Dieu, elle n'est pas si froide que ça. C'est vraiment...
On y reviendra plus tard.
Ouais. Ouais. Et donc, il a vu des angines très très graves. Et il a eu l'impression qu'arrivant à la campagne, tout allait se résoudre miraculeusement. Et il s'est baigné dans cette eau froide. Et le lendemain, il n'a pas pu se lever, quoi. Il a été pris d'une crise de rhumatisme articulaire. Et trois jours plus tard, il est mort.
À trois mois d'intervalle, en fait, Carmen meurt.
Et Bizet meurt.
Et après, Carmen, effectivement, elle va ressusciter, elle, très vite. Bon, il y a 10 représentations, en fait, à Paris.
Non, il y en a un peu plus que ça.
Il
doit y en avoir un peu plus que 40. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a été effacé par... Si vous regardez la presse de l'époque, Carmen, c'est une catastrophe. C'est le scandale des scandales. Enfin, vraiment, si. Les critiques à l'époque, enfin, nous, je reviens encore à l'histoire des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux à côté, c'est de la gnognotte. Hein. C'est incroyable, c'est injurieux, c'est ordurier, enfin, c'est effrayant. Mais le public... Carmen est jouée à peu près trois fois par semaine pendant toute la saison et le public est là. Hein. Le Carmen, l'opéra comique n'est pas vide. Donc ça a été ce semi-succès parce que finalement Bizet n'a jamais été aussi joué. Alors est-ce que le fait qu'il soit mort y a été pour quelque chose ? Parce que comme aujourd'hui, je veux dire, tout d'un coup on s'aperçoit... Bizet est mort. À ce moment-là, son enterrement, ça a été l'occasion... tout le monde avait dit du mal de Bizet, mais au moment de son enterrement, ça devient le plus grand musicien français. Quoi.
Hommage général,
messe dirigée par Offenbach. Enfin, tous les plus grands musiciens français sont là. Donc, sans doute, ça a relancé Carmen. Enfin, bref. Donc, Carmen est jouée. Mais une fois qu'elle quitte l'affiche, terminée. Et en fait, Carmen va très vite, trois mois plus tard, être jouée à Vienne, d'abord, et ensuite à Bruxelles. Bruxelles, c'est le refuge de tous les Français qui ont des soucis. Hein. Donc, et à Bruxelles, Carmen va être un immense succès. Et à partir de là, Carmen va être jouée dans toutes les villes d'Europe. Carmen va être jouée en Amérique. Carmen, ensuite, va revenir dans toutes les villes de France. Il n'y a qu'un opéra qui refuse Carmen, qui continue à affirmer que Carmen est bien trop vulgaire pour avoir l'honneur de la scène, c'est l'opéra comique. L'opéra comique va s'arc-bouter pendant 8 ans pour ne pas jouer Carmen. Et il faudra un mouvement d'opinion énorme pour que Carmen revienne à l'affiche de l'opéra comique et fasse la fortune de Madame Bizet, qui était veuve, mais qui vient de se remarier, qui a fait un très beau mariage. Et voilà, et donc Carmen va faire la fortune de l'ex-Madame Bizet, et sans doute, enfin on peut espérer que du ciel, quelque part, ce républicain de Bizet l'ait su, parce qu'il était mort quand même très découragé, et ça aurait été une petite satisfaction pour lui.
Et 150 ans plus tard, c'est aujourd'hui l'opéra qui est le plus représenté sur toutes les scènes du monde. C'est quand même extraordinaire.
Oui, c'est un peu triste que Bizet n'ait jamais su ça. Enfin, voilà.
C'est un peu triste. Et par rapport justement à cette genèse-là que vous avez si bien décrite et finalement qui a abouti en fait à cet opéra en fait un peu hybride, comme vous dites, qui commence très bien. Et sans doute, il y avait la patte pittoresque d'Halévy dans effectivement le premier acte, et puis après qui évolue vers un drame. Je voudrais vous lire cette citation de Jean-François Civadier, qui est un metteur en scène et qui décrit Carmen en disant « C'est une histoire pure et limpide, comme celle d'une tragédie antique qui commence dans la naïveté d'une carte postale et qui s'achève dans le sang. »
Oui. Ben c'est ça, relâcher les spectateurs dans l'hiver parisien sur le cri d'agonie de Carmen, c'était quand même un peu osé. Et voilà, Bizet l'a fait, et voilà, ça ne lui a pas porté bonheur.
Est-ce qu'on peut conclure en fait cette interview sur Carmen avant de parler peut-être de vous en fait et votre rapport à Lisle-Dieu, parce que ça m'intéresserait de le savoir. On est ici dans ce studio de Neptune. Mais d'abord, en fait, écoutez cet air sur la liberté.
Oui, cet air que, dans ses rêves les plus fous, quand Bizet a compris que les Républicains avaient trouvé le moyen de piéger le gouvernement pour le forcer à adopter, à reconnaître cette constitution qui fait que d'implicite la République, ça c'est une histoire très compliquée mais assez magnifique, cette République qui était encore provisoire, parce que la Chambre, à l'époque, était à grande majorité monarchiste, mais que cette République dite provisoire allait enfin devenir la Troisième République. Quand Bizet a appris ça, c'était le soir de... C'est ça, ça ne s'invente pas. C'était le soir de l'inauguration de l'Opéra Garnier, qui était en construction depuis pratiquement 10 ans. Quand Bizet a entendu ça, il était tellement heureux qu'il a voulu développer pour sa Carmen qui allait être montée, qu'il allait être créée 2 mois plus tard. Il a voulu développer pour sa Carmen un air qui serait un peu l'air de la liberté. À l'époque, on n'avait pas le droit de chanter la Marseillaise. Et donc, Bizet pouvait espérer que dans un mouvement formidable, le public allait se lever et applaudir ce chant de la liberté que Carmen va chanter. Voilà, c'est un très bel air qui est pas juste l'air de Carmen, qui est l'air des chœurs aussi.
Daniel Georget, vous êtes venu chercher la liberté à Lisle-Dieu ?
Oui, un antidote sans doute, un antidote à une époque qui n'a pas que des qualités. Donc Lisle-Dieu, c'est l'air du large, c'est un ailleurs quoi, auquel nous sommes beaucoup à succomber, un parfum qui est quand même exceptionnel, un mélange entre l'infini de l'océan, c'est l'authenticité de ses habitants, voilà, des paysages uniques.
Et ça fait longtemps que vous venez à Lisieux ?
Ça fait... mon fils avait 6 ans, il en a 40 aujourd'hui. Donc voilà, j'ai connu l'Île-Dieu à une époque où le port était rempli de bateaux de pêche. Donc évidemment, malheureusement, c'est un peu différent aujourd'hui. Mais il reste quelque chose de ces fantômes. Et moi, je suis très sensible aux fantômes. Donc voilà, ces fantômes-là sont présents pour moi à l'Île-Dieu.
Il y a des fantômes, il y a beaucoup d'esprits à l'Île-Dieu, des esprits malins, des esprits oui. Des farfadets. Mais vous y venez souvent, en fait, vous y travaillez à l'Île-Dieu, vous écrivez ?
J'y viens souvent, oui. J'y viens beaucoup l'hiver aussi, ouais. Parce que je trouve que pour aimer l'Île-Dieu, il faut venir à l'Île-Dieu hors saison, quoi. C'est quand même la véritable Île-Dieu, c'est celle qu'on découvre à l'automne, à l'hiver. Moi, c'est à l'Île-Dieu que j'ai appris à aimer l'hiver. Avant, je détestais l'hiver. Je suis pas très sport d'hiver. J'ai un peu froid, ça glisse trop pour moi. Mais à l'Île-Dieu, ce changement des saisons, c'est... Bon, il faut être un peu romantique pour aimer l'Île-Dieu. Autrement, voilà, c'est pour ça qu'on peut aimer Carmen et l'Île-Dieu. C'est pas antinomique.
C'est pas antinomique, parce que c'est quand même un opéra très romantique. Si vous étiez une plage de l'Île-Dieu, ce serait laquelle ?
Oh, je ne vais pas dire les Sous parce qu'il y a déjà trop de monde. Je ne vais pas dire les Sabias parce que bon, c'est la plage des îlets, donc ils m'en voudront. Je vais dire quoi ? Alors, il y en a tellement, il y en a une pour chaque jour. Il faut changer de plage à l'Île-Dieu. C'est dommage, il ne faut pas avoir une plage. D'abord, il faut connaître le vent. Hein, pour bien choisir sa plage. Après, quand on connaît le vent, il faut avoir une boussole pour savoir où est la plage la plus abritée. Mais toutes les plages sont belles à l'Île-Dieu. Elles sont toutes différentes.
Et si vous étiez un site de l'Île-Dieu ?
Ah, si j'étais un site, bah, la citadelle, c'est pas mal, non ? En plus, ça va très bien avec ma Carmen.
Et si vous étiez un plat ?
Ah, un plat. Alors là, les patagos, évidemment.
On n'en trouve plus beaucoup.
Oui, ben on les appelle des Vénus. C'est presque pareil.
Ah, ben Vénus, ça nous ramène à l'amour. Voilà. Bon, ben écoutez, sur cette note savoureuse, nous allons nous quitter. Pour rappel, en fait, on va vous retrouver cet été, alors hors de la citadelle, mais sur la prairie de la citadelle.
Avec
puisque
plaisir.
Vous allez être notre première intervenante du cycle Un lieu, une rencontre. Donc, ça sera le mardi 4 août à 11h, vous y serez accompagné de votre fille qui est violoniste en fait et qui nous jouera effectivement donc quelques airs en fait de Carmen. Et cette rencontre en fait sera un préambule à trois représentations de Carmen, donc Carmen qui seront jouées au casino. Donc c'est dans le cadre en fait d'Escale Lyrique. Donc, une production, en fait, et une mise en scène, en fait, faite par Paul-Émile Fourny. Ça sera le 6, le 8 et le 10 août. Carmen des Grands Boulevards est édité par Robert Laffont. Et vous pouvez le trouver aussi bien à la Maison de la Presse que en passé commande à la librairie à contre-courant. Daniel, à bientôt.
À bientôt. Merci.